frère, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait.
Moi, c'est André Dembouzimaï, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. C'est samedi 26 avril 2025 que vont se dérouler les funérailles du pape François. Des personnalités du monde entier et une multitude de fidèles viendront rendre un dernier hommage au chef de l'église catholique mort à l'âge de 88 ans le lundi 21 avril 2025. À la tête de l'église catholique depuis 2013, son pontificat a été marqué par sa foi, son humilité, sa simplicité, son engagement pour la paix, la justice et la dignité humaine. Il laisse derrière à lui cette image du pape des pauvres et des démunis. Les Congolais garderont toujours en mémoire sa visite apostolique à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023 qui du reste a été un moment historique et d'espérance pour le peuple congolais et aussi ses mots pathétiques lancés par le pape au cours de son séjour en RDC. Je cite « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la RDC ». Fin de citation. Quel est selon vous l'héritage politique et spirituel que lègue le pape François à l'humanité en général et à l'Afrique et la RDC en particulier? Voix chanson, les bienvenus sur la page Facebook Paroles aux auditeurs pour s'écrire à l'adresse pia@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 085 44 65 536. Deps Vita est à la mise en ordre de ce magazine. Elise Kavira sur la réalisation et la coordination au micro. C'est Marcel Ngombala, à toutes et à tous. Excellente condition d'écoute de ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs.
Pour s'informer, de plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, l'Afrique de la paix. Merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Vous avez été nombreux à réagir par rapport à ce sujet. On va parler de l'héritage spirituel politique que lègue le pape François à l'humanité en général et à l'Afrique et la RDC en particulier. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans ces studios Monseigneur Donatien Cholet. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, c'est une consigne, mais aussi chapelain du pape François. Avant de parler de l'héritage spirituel et politique que lègue le pape François, on va d'abord parler et nous aider à comprendre, Monseigneur, qu'est-ce que ça veut dire un chapelain du pape? C'est quoi son rôle?
Je suis mal à l'aise de parler de moi-même. Là, je voudrais vraiment qu'on prenne ce temps pour parler du pape. Je vais être très bref.
Allez-y, oui.
Un chapelain, c'est un prêtre dont le Saint-Père a reconnu la loyauté du travail, à qui le Saint-Père a donné le titre honorifique signifiant qu'il communie à la mission de, il encourage le prêtre à travailler dans cette direction et il a le soutien de sa sainteté. Et voilà, donc c'est un titre honorifique, un honneur que le pape fait à un prêtre qui lui est présenté. Certainement, il a les nonciatures apostoliques qui sont ses ambassades et il vérifie, il a tous les moyens pour vérifier. Et avant que cela ne soit décrété.
Voilà, merci pour cette précision et pour aider à donner un peu de la lumière par rapport à cela, parce qu'on parle souvent de Monseigneur Donatien Cholet comme secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, mais il y a ceux qui savent également, c'est les chapelains du pape François. C'était bien de donner cette précision. Alors, revenons au sujet du jour, Monseigneur, avant de parler de l'héritage spirituel et politique lègue le pape François, l'humanité en général, l'Afrique et la RDC. En particulier, parlons d'abord de ces funérailles qui vont se dérouler demain, et devant, on sait qu'il y aura des personnalités du monde entier, une multitude de fidèles qui viendront rendre un dernier hommage au chef de l'église catholique mort à l'âge des 88 ans, le lundi 21 avril 2025. Dites-nous un peu dans quel état d'esprit se passe généralement le funérail lorsqu'il s'agit d'un pape.
Bien, c'est avant tout un événement spirituel, d'autant plus que c'est le père spirituel de l'église catholique qui est universel. Et c'est le monde entier qui communie spirituellement à cet événement. C'est pas pour rien que dans nos diocèses, on n'a pas organisé les célébrations. Dans beaucoup de diocèses, on n'a pas organisé les célébrations au même moment pour favoriser que les gens communient maintenant avec les médias. On a des veillées à la cathédrale à Kinshasa, le nonce apostolique dira la messe. Dans beaucoup de diocèses, ça sera de veiller. Donc, il s'agit d'une communion spirituelle avec le Saint-Père qui est en train de terminer son dernier voyage terrestre, comme il a dit dans son testament, son dernier parcours terrestre. Donc, c'est un événement où tous les chrétiens n'ont qu'un seul vœu, c'est que le Seigneur accueille son fidèle serviteur dans la béatitude éternelle.
Voilà, nous le savons, depuis le pape François, c'est depuis 2013 qu'il a été à la tête de l'Église catholique, et pendant 2013, hein, si c'est bien cela, voilà. Et pendant tout son pontificat, ça il faut le dire, son pontificat a été marqué par sa foi, son humilité, sa simplicité, son engagement pour la paix, la justice, la dignité humaine. Il y a beaucoup qui le considéraient même comme le pape des pauvres et des démunis. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui comme héritage spirituel d'abord ?
C'est d'abord un homme de foi, cette foi qui a fait qu'il puisse, à un moment donné, si vous lisez la biographie du pape François, vous serez surpris. Hein. D'abord, c'est un chimiste hein, de formation, c'est quelqu'un qui a fait un peu du tout, et il a travaillé même dans les milieux les plus mondains, comme le bar là, mais à un moment donné, ben il a été saisi par l'appel de Dieu. Il est entré dans la il avait même une copine qu'il pensait faire la vie avec qui il pensait faire la vie, et voilà, le Seigneur l'a saisi et il s'est laissé séduire par le Christ, et on l'a vu, non, on l'a pas connu quand il était prêtre, évêque, oui. Mais on l'a vu dès le début de son pontificat, les gestes et les actes qu'il a posés sont vraiment les gestes et les actes d'un homme de foi. La première chose qui a surpris tout le monde, c'est que quand on a annoncé qu'Abemos Papa, nous avons le pape, quand on l'a vu, et il nous a demandé à nous, les chrétiens, de prier pour lui. Ça, c'est vraiment un signe d'humilité et de foi. Et cette foi a été visible pendant toute sa vie, même dans son testament, quand il a senti qu'il était à la fin, il a fait un testament relatif à ses funérailles, où on voit aussi cette foi-là, où il demande d'aller l'enterrer. Les obsèques auront lieu à la place Saint-Pierre, basilique, mais il a demandé qu'on l'enterre dans un ancien sanctuaire marial, parce que il avait une grande dévotion mariale. Il avait confié tout son ministère à la Vierge Marie. Au début, à la fin de chaque voyage, il allait dans ce sanctuaire-là et il a décidé d'y être. Il a demandé qu'on écrive comme inscription Franciscus, non pape François. Ça, c'est déjà un message de foi pour dire que le titre ne compte pas. Donc là où je vais, le Seigneur n'a pas besoin de moi comme pape, mais Francesco, c'est le nom qu'il a pris pour dire sa spiritualité d'être proche des pauvres comme François d'Assise. Voilà, ce qui compte devant le Seigneur, c'est pas que tu as été grand pape, mais j'étais malade, j'étais souffrant, j'étais... Voilà, il laisse ce message-là même dans cette inscription-là. Et il demande de simplifier les choses, pas un cercueil compliqué. D'habitude, on enterre avec trois cercueils, mais lui, un seul cercueil en bois, mais bien sûr couvert de zinc. Et il demande de le mettre dans la terre, pas trop de décoration. C'est la simplicité qui est transparente. Et même par rapport aux frais, il n'a pas voulu que l'Église mette la main dans la poche pour ses obsèques. Il dit non, il y a un bienfaiteur que je vais vous indiquer, et puis il a demandé que le Seigneur se souvienne de ses serviteurs. Donc voilà, donc tout était vraiment foi dans sa vie.
C'est vraiment l'exemple de l'humilité, vraiment dans toute sa grandeur, la foi dans toute sa dimension. Mais il y a aussi un autre aspect, Monseigneur, c'est cet héritage politique. Prenons le cas pour en tout cas les Congolais. On va toujours garder en mémoire cette visite apostolique du pape François en RDC à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023, et surtout ces mots pathétiques que le pape a lancé au cours de son séjour en RDC. Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la RDC. On peut également dire que le pape était aussi sur le terrain politique, sur le terrain de mettre fin à la misère de peuple.
Voilà, sa mission était une mission pastorale qui était bien sûr motivée par sa foi en l'homme comme image de Dieu, oui. L'homme qui doit vivre dignement. Et la dignité humaine est souvent aussi corollaire la gouvernance de l'endroit où vivent les hommes. C'est là où la pastorale retrouve la politique. Et il n'a pas échappé à cela. Il n'a pas été indifférent, comme le pape Benoît disait, l'Église ne peut pas être indifférente là où le peuple souffre. Et voilà pourquoi... tout ce qu'il pouvait faire avec son pouvoir prophétique, il ne l'a pas épargné pour faire un plaidoyer au niveau mondial, au niveau des gouvernants, au bénéfice de la population. C'est dans ce cadre-là qu'il a lancé cette forte interpellation. Retirez vos mains de l'Afrique, parce que l'Afrique est victime de la prédation. L'Afrique est victime de l'exploitation de puissances économiques, et ça, il n'avait pas eu peur de le dire. Alors, comprenez que, ce faisant, le pape n'a pas été un politicien. Et le pape est resté dans la pastorale, mais un des champs pastoraux, c'est les champs sociopolitiques.
Exactement. Voilà. Et je me rappelle même, si j'ai bonne mémoire, une fois on a entendu le pape dire à quoi sert d'amasser tous les biens du monde et de voir ses frères et sœurs souffrir.
Voilà, ça c'est vrai. Et c'est vrai. Donc je crois que c'est dans cette dynamique-là qu'il faut toujours lire la pastorale de l'Église dans le monde politique. Et encore que, puisque vous parlez de l'héritage politique, quand il est venu rencontrer les évêques, moi j'ai été très ému qu'il leur présente comme modèle le cardinal Laurent Monsengo, dont on connaît l'impact en politique dans ce pays, et le monseigneur Muziriwa qui a versé son sang dans un contexte sociopolitique connu. Donc, c'est la mission de l'Église.
C'est la mission de l'Église. Monseigneur, on va ouvrir le standard pour recueillir les avis, en tout cas, des auditeurs par rapport à cet héritage politique et spirituel que lègue le pape François à l'humanité en général, à l'Afrique et à la RDC. En particulier, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'Afrique de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs, si vous voulez intervenir par rapport à ces sujets, composez les 0-85-44-55-65-536.
Parole aux auditeurs.
Nous avons déjà en ligne Blaise Saïdi qui nous appelle depuis Kisangani et Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Blaise Saïdi, vous êtes là, vous êtes en ligne. Blaise Saïdi, vous êtes en ligne depuis Kisangani. On a quelques soucis avec la liaison téléphonique du côté de Kisangani avec Blaise Saïdi. Alors on va aller au-delà de nos frontières. J'espère que ça va bien marcher avec Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Franck, vous êtes en ligne depuis Vienne.
Oui, bonjour à votre studio. Beaucoup de respectueuses salutations à Monseigneur Damasien Chouré.
On vous écoute, Franck.
Oui, merci beaucoup, mon cher frère Marcel. Quand vous avez déjà sur votre plateau un théologien de la trempe de Monseigneur Damasien, que nous connaissons, on aurait peut-être plus beaucoup de choses à ajouter par rapport au débat ou au développement de ce débat. Il a déjà tout brossé, il a déjà dit l'essentiel. Moi, personnellement, s'il faut lancer un avis, ça serait peut-être au niveau du comportement du Saint-Père. Quelque part dans la thématique, vous aurez épinglé les mots « sécurité » et « proximité ». Dans la plupart des cas, si nous devons observer les rythmes de vie dans notre monde entier, les grands esprits, les grands penseurs, les grands visionnaires, ils savent comment impacter leur présence dans la vie des autres et surtout dans la vie des démunis. Et cela devait aussi nous interpeller dans notre contexte congolais, parce qu'il y en a qui se font passer, qui se disent autoritaires, qui se disent responsables, mais ils ne savent pas se mettre là où on a besoin d'eux. Et s'il faut aussi arriver à comprendre cette humilité par rapport même à la présence du Saint-Père, c'est aussi lié par rapport à la mission de chaque prêtre de l'Église catholique ou de chaque pasteur. Pour tout pasteur qui se sait au service des autres, pour tout le monde qui se sait proche des autres, il ne peut pas passer outre les difficultés de ses frères, il ne peut pas passer outre la misère des autres, parce que être homme, c'est aussi être sensible à la misère des autres, aux difficultés des autres, et être prêt à défendre leurs intérêts, leur dignité et leurs droits. Et c'est aussi allié par rapport à la doctrine sociale sur les enseignements de l'Église catholique. Dans la plupart des cas, nos pères évêques, ils font des sorties, ils émettent des avis, mais si on doit parfois analyser les réactions de nos compatriotes, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent arriver à se prononcer par rapport à ceci, par rapport à cela. Mais c'est pour le bien de la population, c'est pour le bien des autres. Mais malheureusement, chez nous, au lieu de comprendre pourquoi il y a de telles sorties, il y a de telles prises de position, il y en a qui pensent que les évêques, quand ils affichent ou ils prennent, ils émettent un avis, c'est d'abord par rapport à eux-mêmes. Non, c'est par rapport à la population, par rapport aux pauvres et aux démunis. Et je crois que l'exemple du Saint-Père, quand on doit même lire son testament, c'est là où nous devons nous rendre compte que tout est vanité. Tout ce que vous pouvez posséder, des millions, des milliards, après votre mort, on aura peut-être besoin d'une petite caisse pour vous mettre dedans, et après on va vous enterrer. On peut amasser autant, on peut construire, mais si on n'arrive pas à comprendre les fonds de l'existence, les fonds de l'être, que ce n'est pas seulement sur base des avoirs qu'on peut se faire valoriser, on travaille à côté. Donc je crois que la situation est là devant nous, c'est aussi à nos hommes politiques. Pas seulement nos hommes politiques, il y a aussi certains pasteurs de certaines églises qui devaient aussi s'interpeller, qui au lieu d'être au service de l'humanité, de la population, ils utilisent maintenant la population pour être à leur service. Au lieu de servir, on cherche d'abord à se servir, et c'est contre-témoignage qu'ils peuvent peut-être dénoncer dans notre contexte congolais, et ce contre-témoignage est bien enseigné. L'illustration du témoignage du service, c'est ce que le Saint-Père vient de nous laisser comme héritage.
Voilà, Franck, si je comprends bien, on doit tous vraiment garder cet héritage que nous lègue le pape, c'est-à-dire la simplicité et l'humilité. L'humilité, jusqu'au même, vous avez suivi Monseigneur Donatien Cholet, l'a relevé, l'humilité jusqu'au même, après sa vie, il veut rester une personne humble, une personne simple. Merci Franck de nous avoir appelé depuis Vienne. On revient ici au pays, on me dit que c'est bientôt. Ça marche bah, cette fois-ci pour la ligne de Blaise Saïd. Blaise Saïd, vous êtes bel et bien là.
Oui, je suis là, cher Martel, bonjour.
Allez-y, on vous écoute, Blaise Saïd, vous avez la parole.
Bonjour, oui. Bonjour à Monseigneur Donatien Cholet.
Bonjour.
Cher Martel, le pape François, c'est le premier pape jésuite et latino-américain. Laisse un héritage politique et spirituel profondément marqué par une vision d'église proche des pauvres, de la justice sociale et du dialogue. Cher Marcel, à mon avis, quelques aspects clés pour l'héritage à l'échelle mondiale et puis spécifiquement pour l'Afrique et la RDC. Premièrement, le soutien au peuple meurtri par la guerre. Cher Marcel, lors de sa visite en 2023, où il avait dénoncé les violences dans l'est du pays et en plaidant pour la paix, la réconciliation et la fin de l'exploitation des ressources naturelles qu'il avait demandé, retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la RDC. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, que le pays est en train de subir des choses des Occidentaux, donc des choses des pays occidentaux. Deuxième chose, il y a valorisation des églises africaines. Donc, à ce niveau ici, le Saint-Père, il avait reconnu la vitalité spirituelle de l'Afrique, souvent en avance sur l'Europe en matière de foi vivante, de participation des jeunes et des vocations religieuses. Troisième chose, encouragement aux leaders religieux, et politiques. Donc, à ce niveau ici, il avait interpellé les dirigeants africains pour qu'ils servent les biens communs, dénonçant la corruption qui pose un énorme problème en Afrique, les abus de pouvoir et l'exploitation du peuple. Et enfin, quatrième, ce modèle de leadership humble et prophétique. Donc, par ici, c'est la proximité avec les souffrants, son langage simple et son encouragement prophétique.
Voilà, donc, merci.
Marcel,
voilà.
Au regard de ça, j'ai demandé, permettez, cher Marcel,
rapidement,
j'ai demandé quelques questions à M. Donatien Chole.
Rapidement.
Donc, la première question, je demanderai à M. Donatien Chole, à quoi le style de gouvernance du pape François se distingue-t-il de ses prédécesseurs? Ça, c'est la première question.
Oui.
La deuxième question, quel est le message central que le pape François a voulu transmettre au peuple congolais lors de sa visite en 2023? La troisième question, comment son discours a-t-il interpellé les dirigeants politiques congolais? Et enfin, je vais citer, quel rôle joue l'Église catholique congolaise dans la mise en œuvre de l'héritage du pape pour la paix et la justice?
Voilà, merci beaucoup, Blaise Saïdi, depuis Kisangani. Merci beaucoup, Blaise Saïdi, depuis Kisangani. Avant d'accorder la parole à Maître Patrick Odia, qui nous appelle de Lubumbashi, je m'en vais lire rapidement cette réaction de Junior Bopongo, depuis Kinshasa. Le pape François lègue à l'humanité un magistère prophétique fondé sur la dignité humaine, l'écologie intégrale et la diplomatie de la miséricorde. Pour l'Afrique, il incarne une voix lucide contre les prédations néocoloniales. À la RDC, il offre un héritage de courage morale et de consolation spirituelle enracinée dans la justice et la mémoire. Son verbe demeure un plaidoyer transcendant pour les sans-voix. Voilà, c'est Junior Bopongo depuis Kinshasa. Alors, on va revenir au standard pour écouter Maître Patrick Odia. Maître Patrick, vous êtes là?
Je suis là, Marcel. Bonjour, Marcel, à tous les auteurs de la Radio Capi et à Monseigneur Donatien Chole.
Vous avez la parole, Maître Patrick Odia.
Je commence par m'acquitter du devoir de présenter mes sincères condoléances à toute la communauté catholique, congolaise, africaine et mondiale pour la perte, j'allais dire, du numéro un de l'Église catholique. Quel héritage avons-nous, la RDC, l'Afrique, avons-nous eu après le départ de pape François? Je pense que de lui, nous avons retenu une franchise dans ses dits. Et lui, nous avons également retenu l'humilité dans le dire, même dans la façon d'interpeller les dirigeants mondiaux, qu'il s'agisse de l'Ukraine, qu'il s'agisse de la Russie, qu'il s'agisse de la RDC et partout ailleurs, tout le monde peut reconnaître l'humilité qu'avait le pape ou qui était un pape en tant que souverain pontife également et en tant que chef d'État également. Ça, même si je ne suis pas catholique, personne ne me dira le contraire. Mais en ce qui concerne la gestion politique, je pense qu'il n'a pas été aussi direct pour interpeller, par exemple, les prêtres africains, pour ne pas dire les prêtres congolais, pour essayer de pour beaucoup plus s'approprier les cultes, s'approprier plus les services religieux que s'approprier la politique, par exemple. Là, il ne l'a pas dit. Et là, moi, je me demandais, par exemple, le pape n'a-t-il pas les contrôles, j'allais dire, les pouvoirs de sanctionner certains dirigeants africains, notamment les catholiques, les prêtres, les monseigneurs, les cardinaux, certains, ou tout simplement il se limite à déclarer, tout simplement à faire des déclarations qui par après ne sont pas respectées. Lorsque j'essaie de voir, je parle sous le contrôle de monseigneur Chole également, nous, au jour d'aujourd'hui, l'homosexualité en RDC a atteint un niveau élevé. Et tout ceci, je l'ai dit,
beaucoup de gens reprochent un peu une certaine légèreté, si vous voulez, laissez-moi un peu, je pèse les mots, légèreté, s'il y a un terme qui peut s'avaliner à celui-ci, je pense, une certaine paresse dans la façon de sanctionner les actes de pédophilie ou tout ce qui va avec également. Et c'est pendant le régime, c'est pendant le mandat, j'allais dire, cependant que les papes étaient en vie, pendant sa direction, que ces actes d'homosexualité partout ailleurs ont été beaucoup plus, se sont multipliés également. Même en RDC, certains prêtres, certaines religieuses également, ont commis ces actes odieux qui, selon l'histoire catholique romaine également, même si nous la maîtrisons pas parfaitement, ont été interdits ces actes également. Mais à jour d'aujourd'hui, je pense que ces côtés-là, il n'y a pas l'héritage politique. J'allais dire l'héritage spirituel ou religieux que les papes nous a laissé. Mais dis-moi, l'héritage politique, il a été clair pour interpeller les prêtres catholiques congolais, notamment la Cinco et les autres, à pouvoir plus s'approprier des services religieux, des services spirituels, que s'approprier à 80% de messages tendant à pouvoir ou des discours tendant à diviser les gens. Je pense que le pape ne l'a jamais fait ça, même quand il part, je suis certain qu'il va se reposer un peu parce qu'il a été direct, il a été franc pour unifier le monde, pour lutter contre les démunis, les faibles de ce monde également, mais il avait des mots propres et respectueux pour pouvoir interpeller les dirigeants politiques, mais il ne pouvait pas aller également pour initier des discours haineux, des divisionnistes également. Non, Papa ne l'a pas fait. Donc, le départ des papes à l'héritage est partagé entre, d'une part, la déception du côté héritage spirituel ou religieux catholique en termes d'homosexualité qui a un pourcent élevé, qu'il faudrait également maîtriser. Mais d'une façon politique également, nous avons un héritage politique parce qu'il a interpellé ses prêtres, même si par après, il n'y a pas eu...
Voilà, Maître Patrick, vous n'allez pas revenir par rapport à ça, vous l'avez déjà dit, on va donner l'occasion à Monseigneur Donatien Cholet de réagir rapidement, d'abord par rapport à votre préoccupation sur toutes ces crises qui ont également marqué le pontificat du pape François au sein de l'église catholique. Il y avait beaucoup de crises internes, vous avez soulevé notamment cette question d'homosexualité, et puis Monseigneur a également l'occasion de répondre à toutes les questions qui ont été posées par Blaise Saïdi. Monseigneur, vous avez la parole.
Merci beaucoup à Blaise Saïdi. Je dirais que par rapport à ses prédécesseurs, le pape François est allé vraiment dans la continuité du pape Jean-Paul II qui, avant lui, s'est distingué aussi justement par la simplicité. Il s'est débarrassé de beaucoup de choses qui étaient liées au pape dans la présentation, dans l'accoutrement, ainsi de suite. Même son cercueil était aussi simple. Le message central de la visite du pape, c'était l'appel à être réconciliés tous en Jésus-Christ. Comment les dirigeants ont reçu, ont mis en place cette interpellation, bon, je crois que c'est à chacun de juger. Mais l'Église catholique, de son côté, a continué à approfondir le message du pape à travers... il y a même une publication de la CENCO où on revient sur les différentes recommandations. Chaque évêque devrait voir comment les appliquer dans son diocèse. À Maître Patrick Odia, je dirais que, d'abord, je ne partage pas cette lecture, je vais vous dire pourquoi. Mais ce qui est vrai dans ce qu'il a dit, c'est que c'est les politiques. Quand le pape, même quand la CENCO parle de propos sociopolitiques, c'est ça qui retient l'attention. Mais tout ce que, de beaucoup de choses que la CENCO écrit, par exemple, pour les prêtres, la CENCO avait écrit un message très dur sur le comportement des prêtres, on n'en parle pas. Il en est de même. C'est que le pape a dit beaucoup de choses, mais ce qu'on a retenu, c'est ce qu'il a dit sur le plan sociopolitique. Maître Patrick, est-il au courant? Mais peux-tu me dire ce que le pape a dit au consacré à la cathédrale? Mais ce qu'il dit là, c'était le message principal du pape au consacré. Il a dit, il n'a pas dit en cachette, les médias étaient là. Mais les gens n'ont pas retenu ça. Donc ce que Maître Patrick demande au pape, le pape l'a toujours fait, il est fait.
Donc, vous pouvez aller dans le site du Vatican, les différentes adresses des papes aux évêques, aux prêtres, aux consacrés, aux religieux. Mais il est très dur, hein? Il est très dur. Mais évidemment, comme ça n'intéresse pas le monde, mais à nous, à qui c'est adressé, à la cathédrale, le pape a essentiellement interpellé le consacré contre l'esprit mondain, les a invités d'être recentrés sur le Christ. Donc, le pape l'a vraiment fait. On n'a rien à lui reprocher là-dessus. Par rapport à la situation, même les sanctions, ben écoutez, on est dans l'Église, on ne sanctionne pas pour humilier, mais je vous dis que il y a beaucoup d'évêques à RDC qui ont été sanctionnés. Ça, c'est moi qui vous l'ai dit. Et encore plus le prêtre. Il y en a même qui ont été démis de leurs fonctions. Il y en a même qui ont voilà. Je ne vais pas aller très loin. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne partageais pas l'analyse de Maître Patrick. Ici, vous parlez de mon sexualité, je ne crois pas que ce soit vraiment une réalité aussi vaste qu'en Occident. C'est chaque évêque qui gère, qui sanctionne. Moi, je connais des gens dans les congrégations dans les diocèses qui sont sanctionnés à cause de ces pratiques, encore que c'est vraiment minoritaire par rapport à l'Occident, par rapport à la pédophilie, à la protection de l'enfant. Mais je crois que le pape François a fait plus que tous les autres papes avec les mécanismes qu'on a aujourd'hui. Pour votre information, dans chaque diocèse, et le pape a exigé, il y a des bureaux dans chaque diocèse, donc même au niveau de paroisse, il y a des bureaux de signalement pour les cas d'abus sexuels, pour les cas de pédophilie. Donc, et il y a beaucoup de sessions de formation pour interpeller non seulement les chrétiens mais aussi les ecclésiastiques là-dessus. Donc je crois que avec cette intervention, Maître Patrick comprendra que le pape François mérite vraiment de fleurs, même sur ce plan-là.
Même sur ce plan-là. Alors, le temps pour nous aussi de profiter pour vous poser cette question. Monseigneur Donatien Chollet, on sait que l'Église a été vraiment ébranlée par beaucoup de problèmes, beaucoup de crises à l'interne. Mais on a vu, en tout cas, dans le comportement du pape, cet attachement aux valeurs cardinales de l'Église catholique. Et bien souvent, des fois, il n'était pas très bien compris.
C'est ça le malheur du prophète, hein. Le prophète n'est souvent pas bien compris. Et quand on le comprend, parfois, c'est tard, après qu'il ait beaucoup de dégâts. Nous en avons l'expérience ici chez nous. Quand, dans leur mission prophétique, on tire sur les évêques, la SENCO, et après beaucoup de dégâts, on revient sur ce que, on avait pour lequel on avait condamné. Donc le pape était aussi victime de cela, mais il est resté droit dans ses bottes. Hein. Donc il ne s'est pas laissé influencer par les critiques négatives, dans la mesure où il était convaincu que c'était dans son rôle de pasteur de l'Église universelle d'agir de cette façon.
Voilà, je veux lire cette réaction de Médard Makaba depuis Kinshasa. Le pape François laisse aux Congolais comme au reste du monde un esprit de reconnaissance, d'autonomie, d'intégrité et de souveraineté pour ce qui est de la RDC qui doit rester un État indépendant, qui a droit à ses ressources minières, doit de vivre en paix sur son sol. Le pape François est un modèle de la simplicité, de la pauvreté, un pape qui est un bon berger pour tous les croyants du monde. Pour nous les Congolais, l'héritage qu'il nous laisse, retirez vos mains de la RDC, c'est-à-dire nous les Congolais ne pouvons plus accepter les mains de l'extérieur pour nous appauvrir. Héritier Ngoï qui nous a écrit depuis Mbujima, le pape François était marqué, son pontificat était marqué par sa simplicité, son engagement pour la paix. Il laisse derrière lui la parole des pères à la RDC, malgré tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Il est également Edison Kisuba Mombéré qui nous écrit depuis Goma. Nos condoléances à tous les chrétiens du monde. Ce que je peux dire sur le pape François, c'est qu'il aimait que la paix règne partout au monde. Il a souligné que la colonisation économique doit cesser aux pays africains. Il était un porte-parole des sans-voix. Un peu de paradis s'en va. Voilà, ça c'est Edison Kisuba Mombéré depuis Goma. Avant de revenir au standard pour recueillir d'autres avis, Monseigneur Donatien Chollet, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée sur la délégation congolaise, notamment au niveau de la SENCO, qui doit se rendre aux funérailles du pape?
Ben, la CENCO est représentée au niveau. Il y a son éminence, le cardinal, qui est déjà là. Il y a le président de la CENCO, Mgr Fulgence Muteba, qui a atterri ce matin à Rome. Et voilà, et tous les autres évêques, nous sommes en communion avec eux. Et voilà.
Alors, après le funérail, il aura ses conclaves pour l'élection ou la désignation de nouveau pape. Et là également, comme vous l'avez dit, pour le funérail, c'est un moment spirituel. De même pour le conclave, pour la désignation d'un nouveau pape, ça peut être causé aussi comme un moment spirituel.
Oui, oui, bien sûr, c'est un moment spirituel parce qu'il s'agit de l'élection du père spirituel. Mais bon, on est dans un environnement sociopolitique où les gens cherchent à politiser. Vous avez des sondages ici et là, mais ce qui est vrai que c'est l'Esprit Saint qui est au contrôle. Vous savez, pour la petite histoire,
oui.
Quand lors du conclave passé, à l'occasion de quel on a élu le pape François, en Argentine, hein, c'est un homme qui était là qui m'a dit, en Argentine, il y avait une agence qui faisait les sondages.
Oui.
Quels sont les cardinaux qui ont la chance d'être... Le pape François était à la 69e place, au-delà de 60 places. Et voilà celui qui a été élu. Donc, il y avait des quatre noms qui venaient là. Donc, chacun avec ses arguments, chaque tendance avec des arguments, mais un inconnu. Quelqu'un, non, personne n'en parle.
Personne n'y pensait.
Personne n'y pensait, donc c'est ça la beauté de l'Église. Et tout le monde l'accepte.
Et tout le monde l'accepte.
Alors j'ai mis un humour là dans les réseaux sociaux. Dit, oui. Si c'était quelque part, le frère du pape allait se disputer de place avec les... vraiment, j'aime notre Église entre pour ça.
Et on dit également le pape, il vivait aussi même au Vatican, il menait une vie vraiment simple. Hein.
Oui, mais je disais que vraiment, c'est la simplicité l'a marqué toute sa vie, donc il ne loge pas dans le palais officiel où le pape résidait, il est à Sainte-Marthe où il mange avec tout le monde, même les visiteurs qui viennent là, donc le pape mange cette table-là et sont là, donc une simplicité vraiment encourageante.
Voilà, donc on va attendre pour les funérailles, il aura effectivement ses conclaves. Alors dites-nous, et comment se fait le choix du nom? Parce que lorsque un pape a été désigné ou élu, il s'est choisi un nom pour pendant son pontificat. Comment s'est fait ces choix de nom? On parle du Jean-Paul Ier, du Jean-Paul II, de Benoît XVI, du pape François qui voulait rester seulement pape François. Et ça se passe comment, Monseigneur?
Là, c'est vraiment à la discrétion de la personne qui est élue, okay. Qui, vous savez... Nous tous, même ceux qui sont dans le monde politique, même nous qui sommes dans le monde religieux, nous avons tous nos références, nos idoles, entre guillemets, les personnes qui nous ont marqué le plus dans notre formation, dans notre vie de prêtre, dans notre vie d'évêque. Donc, tout ça concourt à contribuer à influencer une personne, de choisir le pape François. C'est le premier pape qui a porté ce nom. Donc, on voit bien que c'était sa spiritualité. Il voulait vraiment mettre l'accent sur le service des pauvres. Il a choisi Saint-François d'Assise, qui est vraiment un saint qui a consacré, qui a vécu, non seulement vécu pauvrement, mais il a consacré toute sa vie aux pauvres. Donc c'est lui qui était marqué par Benoît XVI, par exemple, était marqué par le pape Benoît XV plutôt.
Oui.
Lui, c'est un grand intellectuel, hein, le pape Benoît. Donc, le pape Benoît XV, avec son encyclique Maximum Illud, qui a marqué, révolutionné l'esprit missionnel de l'Église, ça l'a orienté à devenir Benoît XVI. Donc, voilà, donc, celui qui viendra, il sera inspiré par rapport à l'orientation qu'il veut donner à son pontificat,
ou à l'exemple qu'il veut suivre parmi tous les saints-pères qu'on a connus.
Mais par exemple, si, disons hein, que non, hein, il a celui qui viendra, si peut-être qu'il a été marqué par la manière avec laquelle le pape François a dirigé à l'Église catholique, il peut dire François II ou François Ier. C'est comment François
II?
S'il accepte de François II.
François II.
François II,
François
voilà.
C'est possible.
Voilà, merci, Monseigneur Donatien Solé. On va recevoir, accueillir notre collègue Lise Cavira pour avoir une idée sur le condensé des réactions par rapport à ce sujet. Lise, bonjour, on vous écoute.
Bonjour Marcel. Alors, nous continuons de recevoir vraiment des réactions en hommage au pape François.
Oui.
Et nous avons là Munguja Kiza Eric, qui est étudiant à l'ISP Bounia, qui dit « C'est une grande perte pour notre Église catholique, que son âme repose en paix. Pour l'Afrique en général, le pape François a toujours mis l'accent sur la nécessité de l'unité et de la solidarité entre les nations africaines. Il a encouragé un dialogue interculturel et interreligieux, essentiel pour promouvoir la paix dans un continent souvent marqué par des conflits internes et des tensions ethniques. Sur le plan politique, il a prôné une éthique des responsabilités sociales, faisant appel aux leaders africains pour servir leur peuple avec intégrité et à s'engager activement dans la lutte contre les injustices. En ce qui concerne la RDC, ses paroles lors de sa visite notamment « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la RDC » résonnent comme un appel puissant à la souveraineté et à la dignité nationale. Sur le plan spirituel, le pape a prôné un engagement envers les plus démunis, ce qui nous rappelle l'importance de la solidarité et de l'entraide face aux défis quotidiens. Son message nous encourage, nous, citoyens, à ne pas perdre espoir et à continuer de se battre pour nos droits et notre dignité. Pour Doria Mukwando, depuis Bandundu, l'héritage du pape François est complexe et multiforme, tant sur le plan politique que spirituel. Le pape François a toujours mis l'accent sur la nécessité de s'occuper des plus démunis. Il a constamment plaidé pour un dialogue pacifique entre différentes religions et cultures. Son engagement pour la paix en Afrique, en particulier dans les régions en conflit, contribue à sa réputation d'unité et de réconciliation. Sur le plan politique, le pape François n'a pas hésité à dénoncer les inégalités économiques et la corruption. Ses discours et ses interventions ont souvent appelé à des réformes politiques et sociales, encourageant les gouvernements à prendre des mesures pour réduire la pauvreté et promouvoir la justice. Il prônait l'universalité de la foi. Son appel à une église plus inclusive et accessible a contribué à redéfinir le rôle de l'église catholique dans la société moderne en la rendant plus pertinente face aux défis contemporains. Les décisions politiques et spirituelles qu'il a prises continueront d'influencer la réflexion et l'action des générations futures. L'étudiant Joseph Elonga, depuis la ville de Kikwit, salue l'engagement du pape en ce qui concerne la paix et la justice sociale. Il se rappelle que le pape tenait beaucoup à la protection de l'environnement avec l'encyclique Laudato Si, j'espère que je n'ai pas écorché le mot, dans laquelle il a souligné l'importance de prendre soin de notre planète, un message crucial à l'heure de la crise climatique. Pour l'Afrique et la RDC en particulier, son héritage est empreint de l'espoir et de la dignité. Lors de sa visite en RDC, ses paroles ont résonné dans les cœurs de nombreux Congolais, rappelant la nécessité à mettre fin à l'exploitation et au colonialisme moderne. Enfin, son appel constant à l'unité et à la fraternité humaine rappelle que le dialogue et la compassion doivent prévaloir surtout dans les contextes des crises et des conflits. Sa vision spirituelle encourage les fidèles à avancer vers un avenir plus solidaire et compatissant. Nous avons également Baraka Godefroy qui est étudiant à l'ISTEM Nyankunde à Bounia. Il dit « La mort du pape François marque la fin d'un pontificat profondément humain et tourné vers les périphériques du monde. Son héritage politique et spirituel est immense. À l'humanité, il lègue une église plus proche des pauvres, engagée pour la justice sociale, le respect de l'environnement, le dialogue interreligieux et la paix. Il a constamment plaidé pour la fin des conflits, la protection des migrants et une économie centrée sur l'humain plutôt que sur le profit. À l'Afrique, il a rendu la dignité à un continent trop souvent marginalisé sur la scène mondiale. Il a dénoncé avec courage les ingérences, l'exploitation des ressources et des injustices dont souffrent des peuples africains. Il a porté la voix de ceux qu'on n'entend jamais. À la RDC, son message reste gravé dans la mémoire collective. Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la RDC, une parole que les Congolais ne risquent pas d'oublier. Et nous avons Adrien Mufungizi depuis Bandunduville qui dit « Le pape François pour moi restera un homme de foi vrai, proche des pauvres et des oubliés. Ce qu'il a dit sur la RDC m'a profondément touché. c'était plus qu'un message religieux, c'était un cri de justice. Son passage à Kinshasa en 2023 m'a donné l'impression que pour quelqu'un qui a du poids dans le monde, voyait vraiment nos souffrances. Il nous a parlé avec amour et avec vérité. Il laisse derrière lui un héritage de paix, de justice et surtout d'espoir. Nous finissons avec Joseph Mumbiti Kajazi de Kinshasa. Il rend hommage au pape François, un homme de foi et de courage qui a su porter la voix des sans-voix. Son message en RDC reste gravé dans nos mémoires. Retirez vos mains de l'Afrique. Retirez vos mains de la RDC. Ce n'était pas seulement un discours religieux. C'était un appel politique fort à la justice et à la dignité de notre peuple. Son héritage pour l'Afrique, c'est celui d'un réveil de conscience, d'un encouragement de prendre notre destin en main. Il a su faire de l'Église un espace de consolation, mais aussi des dénonciations, ce qui est rare à ce niveau des responsabilités. Puis sa mémoire nous inspirait, nous les jeunes, à devenir des artisans d'un avenir plus juste et plus solidaire.
Wow. Merci pour toutes ces réactions. Lisa, il faut le dire, en tout cas, il faut le reconnaître, toutes leurs réactions reconnaissent l'action que le pape a eu à mener.
Effectivement.
Et surtout sa simplicité. Et pendant longtemps encore, ces mots vont résonner dans les oreilles des Congolais. Retirez vos mains.
Il restera inoubliable.
Voilà. Retirez vos mains de la RDC de l'Afrique. Merci. Et Lisa, on va revenir au standard. Je pense que Justin Calabia est là. Justin Calabia, vous êtes en ligne depuis Bounia?
Merci, M. Marcel. Je suis en ligne. Je salue aussi Mme Élisée Kavira, en tout cas, et tous les auditeurs de Radio Okapi.
On vous écoute, Justin.
Oui, en tout cas, nous rendons hommage au pape. Hein. En tout cas, ça fait très mal de perdre un homme plein de sagesse, un homme plein de sagesse, plein de confiance que son père, en tout cas, que son âme repose à paix. Monsieur Marcel, j'ai une question que je vais poser à Monseigneur Donatien Cholet.
Allez-y.
Mais oui, Monsieur Marcel, je ne sais pas si quel est le critère pour devenir pape. Est-ce qu'un jour en Afrique, en général, on aura aussi un noir africain de devenir pape? Ça, c'est la première question. La deuxième question, monsieur Marcel, oui, vu la sagesse et les mots que le pape avait dit lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, que retirez vos mains en Afrique en général, et en RDC en particulier, ces mots ont touché toute l'Afrique entière, et en particulier à RDC. Et maintenant, nous nous demandons, est-ce que le pape qui va succéder à François aura toujours le même caractère que lui? Ou il aura soit le racisme, ou il aura soit, comme ce sont les Européens, qui choisissent de mettre foi le pape. Est-ce que en Afrique aussi, ou en tout cas, nous aurons aussi une opportunité d'avoir un pape? Sinon, merci, M. Marcel, et bon début de week-end.
Voilà, merci, Justin Calabia, depuis Bounia. Vous avez la parole, Monseigneur.
Eh bien, je vois comment... Mais je comprends, ces questions, c'est une façon de pleurer le pape... Le pape François, ça me va droit au cœur. Les critères, on ne donne pas de critères. Donc, il y a 120 cardinaux qui n'ont pas encore 80 ans, qui sont là. On ne va pas donner les profils. Donc, mais tout ce que nous avons toujours appris comme, parce que tous ces cardinaux sont des prêtres, et ils savent au moins les critères pour être un bon pasteur. Vous savez, même quand on choisit les évêques, quand on fait des enquêtes, il y a aussi des critères qu'on rappelle. Mais le plus important, c'est que le pape qui doit être choisi soit un pasteur selon le cœur de Dieu, donc un homme de Dieu qui ne peut être qu'un homme des hommes. Donc, plutôt que de poser une question, je dirais à notre frère de beaucoup prier, de sensibiliser les gens à prier pour que l'esprit soit reçu par ceux qui vont voter le prochain pape, pour que ce soit vraiment un pape selon son cœur, d'où quelle que soit sa provenance. Nous sommes dans l'Église famille de Dieu. On ne tient pas compte. Vous savez, Jean-Paul II, quand il était élu, c'était une grande surprise, parce que jusque-là, le pape était italien. Et la surprise, c'était un Polonais. Et cette fois-ci, quelqu'un polonais, on ne peut encore dire de l'Union européenne, mais l'Argentine, de loin. Donc pourquoi pas demain de l'Afrique, mais c'est pas en ce terme-là qu'on doit réfléchir, parce que on peut avoir un pape italien qui ferait autant du bien qu'à l'Église que de le pape François, tout comme on peut avoir un pape africain qui soit aussi raciste par rapport aux autres continents et l'Église universelle. Donc c'est pas question de race, de couleur, mais question d'individus disposés à servir Dieu en servant les hommes.
Et voilà, Monseigneur, je me rappelle avant l'élection du pape François, lorsque les cardinaux étaient entrés en conclave, chaque fois on entendait la fumée blanche qui indiquait que finalement il y a un pape qui a été désigné. Est-ce qu'il est arrivé aussi que cette désignation prend aussi du temps qu'il en faut?
Ah oui, dans l'histoire de l'Église, on a vécu des conclaves qui ont fait près de mois et de mois sans que la fumée blanche ne sorte. À un moment donné, on devait même, parce que ils doivent être bien nourris, non? Alors comme les gens étaient impatients, ils ont dit non, je crois qu'on va commencer par les affamer. On commença le service seulement de l'eau et un peu de pain pour qu'ils ne meurent pas. Et donc, ils n'étaient plus dans les conditions à être intéressés à rester là. Ces dernières années, c'est vite parti. Hein, dans quelques jours, je crois qu'il y a une bonne évolution dans ce sens-là.
Et pour ce qui est du conclave, aussitôt après le funérail, les conclaves interviennent à quand?
Oui, généralement, c'est entre 15, à partir de la 15e jour, hein, généralement. Et puis, bon, ça prend des jours, autant de jours que ça prendra. Mais, bon, moi, je suis en train d'espérer que avant la fin du mois de mai, on aura un nouveau pape. Ça, c'est moi qui espère.
Et il faut pas, on peut également arriver d'avoir un jour un pape noir.
Non, pas exclu. Ça serait bien sûr notre fierté, mais on sera davantage fiers si c'est vraiment un pape qui marque l'Église universelle comme l'a fait le pape François.
Voilà, merci beaucoup Monseigneur Donatien Cholet. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo et chapelain du pape François. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous en prie. Merci.
Fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de ce jour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Debs Vita qui est à la mise, en nom d'Élise Kavira qui l'a réalisé et coordonné également, à l'équipe multimédia, Nelson Nyombe qui nous a rejoint pour les comptes de l'équipe multimédia. Au micro, c'était Marcel Ngomomba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.